Claude Askolovitch, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Des problèmes d'argent, Claude, dans le Parisien ce matin.
Ouais, et nous allons laisser de côté ces immensément riches dont les optimisations fiscales dont nous parlons ce matin peuvent nous fasciner ou nous écœurer. Non, le Parisien aujourd'hui en France s'intéresse aux citoyens automobiles ordinaires dont le patrimoine subit une décote. Voiture d'occasion, le crack annoncé du diesel, c'est le titre de une. Et oui, les voitures diesel se revendent dorénavant moins bien et moins cher que leurs sœurs à essence. La preuve par Paul, commercial dans l'industrie à Brunoy dans l'Essonne. Il a mis 2 mois à revendre son monospace. Pourtant, première main, moins de 10 000 au compteur, bardé d'options et impeccable. Il en espérait 25 000 euros. Il a dû transiger à 22 000. On le plaint ou pas? Mais le journal Le Parisien est malin, qui donne à échelle humaine la conséquence patrimonial d'un vaste phénomène politique. La fin, je cite le journal, du ménage à trois que formaient l'État, les automobilistes et les constructeurs français. Oui, le diesel était une politique française brisée par l'impératif de la santé publique. Mais ceux qui y ont cru à cette histoire sont dorénavant, pour le journal, des cocufiers du diesel. Parfois, les cocufiers deviennent méchants. Mention spéciale au dessin du Parisien de Rançon. On y voit une voiture suivie d'un nuage de fumée et deux hommes qui dialoguent. Tu vas continuer longtemps à rouler au diesel jusqu'à ce que j'arrive à le revendre, sinon qu'ils crèvent tous. Parole forte au moment de la conférence environnementale de Bonn.
La COP 23 qui justement fait la une de la Croix.
Avec le titre le plus simple du monde, climat passé aux actes. Et ce titre donne la mesure à la fois des illusions dont on se berce depuis l'accord de Paris et des urgences. La Croix est allée dans le Pacifique, voir des îles qui sont posées sur une mer turquoise, les églises méthodistes pousse au-dessus de l'érosion, on se déplace en bateau ou en avion pour jouer au rugby contre l'île voisine. Et la mer, qui monte de quelques millimètres chaque année, avale les berges et pollue les sources. Dans les îles Kiribati, les habitants construisent des murs de protection devant leur maison avec des bouts de bois, des pierres et des pneus. Mais ces îles sont condamnées si rien ne change. Vous migrerez avec dignité. L'esprit du peuple des Kiribati ne s'éteindra pas. Parole du président fidjien Joly Konroté, c'est lui qui préside la COP de Bonn, à ses réfugiés en puissance. Il y a donc dans la Croix la poésie amère qui s'émane des mondes en sursis et aussi dans nos journaux un sentiment d'impuissance qui grossit tant les logiques industrielles et financières prospèrent. Exemple, c'est dans les Échos, les industries pétrolières et minières américaines ne rendront plus public ce qu'elles payent au gouvernement étranger. Décision de Donald Trump, évidemment. Exemple, dans Mediapart, les énergies fossiles sont toujours financées par les banques, et notamment les banques françaises. Par exemple, la BNP, la Société Générale Crédit Agricole, finance des projets d'extraction de sable bitumeux, c'est révélé par l'ONG Les Amis de la Terre. Exemple encore, dans l'Humanité, qui dénonce le poids des lobbies énergétiques dans les négociations climatiques. Il était une fois un diplomate du Panama, négociateur de sommets internationaux contre le réchauffement, tout en étant membre actif d'une association de pétroliers. Voilà. On désespère ou bien on s'accroche? Les Échos célèbrent l'Égypte qui va construire des centrales solaires. 13, cela vient d'être signé. Mais entre l'affichage étatique et le réel, il y a une marche. Vous lirez dans Libération un article à l'ironie amère. En Chine, la face cachée du solaire. Je résume, la Chine a beau développer sa capacité de production d'énergie propre, solaire ou éolienne, eh bien elle n'arrive pas à l'utiliser réellement dans son réseau électrique pas assez souple. Et donc la Chine produit de l'énergie propre et ensuite elle jette l'équivalent de toute la production solaire française en une année. Est-ce que l'on rit du côté des îles Fidji?
Allez, on passe à la brutalité, Claude, d'un prince réformateur qui fascine les journaux.
Bernard Guetta vient d'en parler. Le prince Mohamed Ben Salman, héritier du trône saoudien, qui a fait arrêter pour corruption 11 princes, 4 ministres, 38 anciens ministres et hommes d'affaires, et parmi eux son richissime cousin Walid Ben Talal, 19 milliards de dollars et propriétaire notamment de l'autre Hôtel Georges V à Paris. Les Échos titrent sur la révolution de palais. Libération parle d'un nettoyage par le vide. Mais nos journaux expliquent cette prise de pouvoir brutale. On pense à la prise du pouvoir par Louis XIV de Rossellini, par l'impératif de la modernisation de l'Arabie Saoudite. Cela console, et oui, quand on lit les journaux, cela fascine aussi. Fascinant aussi le fait que la violence de ce prince fait écho avec une autre violence sourde, cette fois d'une foule anonyme. C'est raconté dans Le Parisien. Les internautes qui ont persécuté une journaliste qui s'appelle Nadia Dame pour une chronique sur une station voisine, Europe 1, qui leur avaient déplu. Insultes, menaces de mort, menaces de viol, des dizaines de milliers de messages que le site jeuxvideo.com, c'est sur une de ces plateformes, un de ces forums que les insultes avaient lieu, a dû supprimer. Eh bien, d'autres internautes veulent réagir. Ils ont lancé un mot d'ordre, balance ton forum, pour demander aux marques de boycotter les sites où se mitonne la haine. C'est aussi comme cela que la société se défend.
De la mémoire sportive, enfin Claude, dans la Dépêche.
Qui consacre une page aux grands sportifs morts pendant la Grande Guerre, des légendes de leur temps qui ont rencontré des drames que nos gentilles vedettes, qui parfois, n'est-ce pas Nabil Fekir, énervent les supporters, ne peuvent pas avoir idée. Et c'est une mémoire fragile qui se réveille ainsi dans le journal. Par exemple, celle du grand Octave Lapize, surnommé le géant du Tourmalet, le premier à avoir monté ce col sans mettre pied à terre, vainqueur du Tour 1910, abattu aux commandes de son avion en juillet 1917, ou bien la mémoire du rugbyman Aimé Giral, le petit prince de Perpignan, dont le stade catalan porte le nom, tué à 19 ans. On lit ceci dans la Dépêche. L'azur du maillot perpignanais rend hommage encore aujourd'hui à l'uniforme des poilus de 14-18. Et on lit cela. Aimé Giral, savez-vous, Nicolas, était un prince à Perpignan parce qu'il avait transformé un essai depuis le bord de la touche pour donner le titre de champion de France à l'USAP en 1914. Qui s'en souvient, on touche ainsi à des légendes locales que seule la presse régionale peut faire surnager. Ainsi, et j'en termine, si vous prenez ce matin la Voix du Nord, vous verrez à la une une photo d'estaminet en fait, avec ce titre étonnant, « mais non, Raoul, il est pas mort ». Et c'est un hommage à un personnage qui s'appelait Raoul de Godewarsvelde, de son vrai nom Francis Delbar, photographe, chanteur, amoureux de la Côte d'Opale, un géant d'1m92 et de 120 kilos qui se moquait de sa voix, une laryngite de comptoir, disait-il, mais il avait chanté sa région, la mer, les usines et la fête, avant de se tuer en 1977. Une exposition lui est consacrée qui va tourner jusqu'en juillet dans sa région. Inconnu dans toute la France, mais une légende chez lui dans le Nord. Mais peut-être, Nicolas, le son nous dira quelque chose.
Quand la mer monte, j'ai honte, j'ai honte.
Claude Askolovitch, merci pour cette revue de presse.